dans une taverne du vieux Londres, où se retrouvaient des étrangers. Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre, et nous écoutions nos cœurs chanter.
Bonjour Monsieur Edmond, nous sommes réunis pour nouveau numéro de Je m'ennuie bien, avec un écho de fort mauvais aloi, ouais, mais ça va passer.
Vous parlez dans un aquarium, Madame Henriette ?
Oui, j'ai décidé de changer.
Allez, c'est le fond du bocal qui commence. Non, c'est Je m'ennuie bien, pardon. Bonsoir Monsieur Kogan.
Oui, je ne l'ai même pas relevé parce que tout se passe dans cette émission... de façon très étrange depuis tout à l'heure, y compris en antenne, chers téléspectateurs.
Ne divulgâchez pas, Monsieur Kogan, vous savez que c'est interdit.
Absolument.
Alors écoutez, on va commencer tout de suite par une petite question. Pourquoi on ne peut pas cloner de mammifères plus de 57 fois? Voilà, c'est très précis, hein, c'est une émission, Madame Henriette, vous voulez de l'intelligence
pas...
Eh bien là, on en a de l'intelligence, là.
On ne peut pas faire plus de 57 clones du même animal, c'est ça?
Du même mammifère.
Du même mammifère. C'est une histoire de nombre de chromosomes ?
Non, non, non.
Bah non, parce qu'en plus, ça varie complètement d'une
espèce à
l'autre.
Écoutez, on ne sait pas exactement, mais les scientifiques s'en sont aperçus. Et c'était quelqu'un qui l'avait déjà théorisé en 1932, le généticien américain Hermann Joseph, qui avait été Nobel de médecine en 1946, et qui donc avait fait toute une théorie en disant que de toute manière, même si on faisait des clones, il y avait toujours des mutations délétères. Et que donc, au bout d'un moment, une lignée de clones disparaîtrait.
Oui, donc la guerre des clones, vous vous arrêtez avec une troupe de 57 gars, quoi.
C'est ça.
Ah, voilà. Bravo.
Ça va être moins impressionnant tout de suite.
Et donc, là, une équipe japonaise a fait le test chez des souris. Et effectivement, à partir de la 58e génération, il y a un effondrement génétique. Vous voyez ? Allez, donc si vous voulez vous intéresser à ça, vous allez voir le cliquet de Müller. Et donc vous aurez, puisque c'est Hermann Joseph Müller, pardon, je n'ai pas donné son nom entier. Voilà, et vous aurez toute la théorie là-dessus.
Oui, bon, en même temps, hein, le clonage. C'est quand même pas l'invention la plus intéressante de ces dernières décennies.
Bon, ben, vous êtes bien content en légumes et tout ça, de faire des clones, ça vous arrange bien, Madame Henriette ?
Alors, les légumes ne sont pas des mammifères, comme vous l'aurez noté.
Ah non, mais il y a des clones quand même. Allez, on va parler d'autres animaux qui ne sont pas des mammifères, mais c'est trop rigolo, je gardais juste parce que ça m'amuse, mais apparemment c'est vraiment très embarrassant. Un troisième foyer de fourmis électriques a été détecté dans le Var.
Ah.
En même temps, voilà.
Par les temps qui
voilà,
courent.
Le cornu doit être content, hein, c'est la transition. Ça. Hein, ça, c'est... On passe aux fourmis électriques. Allez, un petit truc.
Oui, non, parce que les fourmis diesel, non, ça c'est pas...
C'est ça, c'est moins bien.
Un petit truc qui est passé inaperçu grâce à notre ami Trump, mais qui est quand même pas mal, hein, faut dire ce qui est. Même si là, il a dit qu'il allait faire, puisqu'il a eu le président chinois au téléphone et ils se sont mis d'accord sur je ne sais pas trop quoi, hein, avec Trump, on ne sait jamais. Et ils ont dit qu'ils allaient se faire un gros poutou la prochaine fois qu'ils se voient.
Et qu'est-ce qu'il en dit, l'intérêt?
Je ne suis pas sûr. En tout cas, là, le titre, c'est « Un acte de sabotage ». Les Philippines accusent la Chine d'avoir déversé du cyanure dans des eaux disputées. C'est sympa, non ?
Oui.
Il ne faut pas le faire.
Allez, justement, Monsieur Kogan, j'ai une nouvelle pour vous, mais je suis sûr que vous l'aviez vue. Une centaine d'œufs, et ça va intéresser même les végétariens, une centaine d'œufs de dinosaures vieux de 72 millions d'années découverts dans l'Hérault. C'est le paléontologue Alain Cabot, qui est aussi directeur du musée parc des dinosaures de Metz, puisque c'est une pinette de 6 hectares située entre Montpellier et Béziers, où il avait déjà fait des découvertes. Et donc là, voilà, une centaine d'œufs, 72 millions d'années, c'est pas mal quand même.
Comme quoi, il peut se passer des trucs intéressants dans ce coin.
Des œufs ronds, qu'on pourrait comparer à des ballons de foot s'ils ne pesaient pas 2 kilos.
Et ah si... ben c'est... C'est comme vous voulez. Ouais, vous... Voilà. C'est une nouvelle version de ce sport.
Et s'il n'avait pas été pondu par des sauropodes femelles, dont le fameux Diplodocus fait partie hein, de cette famille. Donc ça pouvait faire jusqu'à 15 mètres, peser 20 tonnes. Bon.
Le Diplodocus, pas l'œuf.
Il faut se méfier. Faut se méfier. Ah bah là, oui, la femelle.
L'œuf,
la femelle.
C'est petit. Puis c'est un bébé dinosaure, c'est trop mignon.
Ouais, faut le dire vite, ça, quand même. Hein.
Alors, ce qui l'intéresse, c'est qu'apparemment, il y a un de ces œufs où il y aurait peut-être encore l'embryon dedans. On n'est pas loin de Jurassic Park.
Ah ben, on parlait de clones au début.
Ouvrez les guillemets.
On va faire des références à toutes les grandes séries du cinéma américain. Remarquez, j'en ai une aussi. Donc,
Ah ben voilà, et puis vous avez dit que vous allez chroniquer Cocorico 1 et Cocorico 2, donc on attend avec impatience la rubrique culture de M. Kogan en fin d'émission. Ouvrez les guillemets. Après 9 mois inoubliables, j'y suis enfin arrivé. Le chanteur viennois annonce avoir achevé la construction de sa cabane en bois. Ça méritait oui, bien le titre, non ?
Alors c'est pas une plaisanterie, il a vraiment fait ça. Mais bon, ça, qui est-ce que ça intéresse exactement ?
A priori, plein de gens, puisqu'il fait des vidéos et que les gens les regardent, et ils le regardent construire sa cabane. Alors, on ne voit que lui, mais bon, bien sûr, il y a toute une équipe autour de lui pour le filmer. Hein. Ça ne se filme pas tout seul.
Oui, et... J'ai du mal à croire qu'il a fait ça tout seul, moi.
Ah ben, en tout cas, pour le filmer, il y avait du monde. Alors, il y avait peut-être du monde pour l'aider à...
Pourquoi ? Elle est magnifique, sa cabane ?
Empiler ses rondins. Alors, je vous avouerai que j'ai pas...
Vous n'avez pas tenu toute la série.
J'ai pas suivi toutes les étapes. Hein. Bon, on
vous
va pas se mentir.
Vous êtes arrêté au moment où il découpe le premier tronc, c'est ça ?
C'est... Voilà. À la fois, il y a Vianney et il y a construction de cabane. Deux événements qui, a priori, ne devraient pas arriver dans ma vie.
Allez, un titre repris par Libé, mais qui est une révélation du Financial Times. Clone, l'armée des ZUC. Ah. Quand le patron de Meta cherche à se dédoubler grâce à l'IA.
Oh là là.
Pour que, en fait, tous les employés de Meta puissent lui parler sans qu'il ait à répondre.
Ah oui.
Et en plus, l'intérêt, c'est que ça ne va jamais se coucher, ce genre de PDG.
Alors, celui-là se couche beaucoup, je pense, parce qu'il avait quand même fondé Facebook, on sait pourquoi, et puis c'est une grosse feignasse.
Ah ben écoutez,
je pense
là...
que s'il y en a un qui a jamais travaillé dans cette boîte, c'est lui. Hein.
Bon, un nouvel ami pour Monsieur Edmond.
Ah ben excusez-moi. Donc il a envie de voilà que en fait il ait plus besoin de parler à personne et que ce soit l'IA qui réponde à sa place à ses 80 000 employés. Ça fait peur quand même. Allez, là je pense qu'on est au summum de la créativité. Et il faut remercier nos amis iraniens, si on en a. Il n'en reste plus beaucoup, mais bon, il en reste quand même. C'est un gros pays, hein. 92 millions, c'est pas tout de suite.
92 millions d'habitants.
Vous allez parler d'un clip ?
Ouais, un clip magnifique qu'ils ont lancé sur une chanson qui est un tube phénoménal français, puisqu'il s'agit de la chanson « Voyage, voyage » de Desireless. Vous l'avez vu, M. Kogan, donc ?
Oui, oui.
Alors, est-ce que vous savez, Mme Henriette, M. Kogan, comment on dit « blocus » en anglais ? Ne regardez pas comme ça.
J'aurais pensé blocus aussi.
Non, blocade, blocade. Et donc ça fait blocade, blocade. Et en fait, ils ont refait Voyage, Voyage. Et c'est Donald Trump qui chante. Évidemment, c'est une version IA là aussi. Et donc, il faut aller écouter. C'est absolument magnifique.
Il faut voir hein, la coupe, coupe, le design 80s, c'est magnifique.
Et le texte, évidemment, est totalement parodique. C'est pas le texte original. Et ça raconte donc le blocade, blocade d'Hormuz. Ça vaut son pesant de cacahuètes.
Alors, mettons quand même de grosses guillemets à tout ça et rappelons que le régime iranien
en effet.
Est un régime fasciste monstrueux. Donc, que ces gens soient capables d'un certain humour, voilà.
Ouais, c'est pas sûr, on sait pas trop qui a fait ça. Hein.
Alors,
ça a été publié sur un truc iranien. Mais après,
Et puis, on peut pas dire que les gens qui gouvernent l'Iran depuis quelques décennies soient de grands amis de la création artistique,
non.
En particulier quand elles viennent des femmes. Hein. Voilà.
En particulier, oui, oui.
Non, mais ça fait du bien de se moquer de Trump un peu aussi.
Oui, mais enfin bon.
Parce que, en fait, les femmes n'ont pas le droit de chanter en Iran. Hein.
Non, mais personne. Non, mais écoute, il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas le droit de faire en Iran, malheureusement. Cécile Kohler, justement, puisqu'on parle de l'Iran. Raconte comment la poésie l'a aidé à tenir en Iran. Et c'est dans, Télérama. Pendant que j'apprenais le texte, je ne pensais pas à la mort. Alors évidemment, je suis allé voir, je me dis, elle prenait quoi comme texte? Alors en fait, elle avait un seul texte qui était à sa disposition. C'était un immense poème du poète persan Hafez. Elle ne parle pas du tout le persan, donc elle l'a appris en phonétique. Voilà. Donc elle ne savait pas ce qu'elle apprenait, mais ça l'aidait à tenir. C'est beau quand même, la poésie qui vous... Rappelons que Céline Collère, évidemment, était en prison là-bas, dans des conditions assez déplorables. Allez, j'avais envoyé à Madame Henriette une magnifique photo de ses amis coréens. Est-ce que vous êtes allé voir de quoi il s'agissait?
Je ne crois pas.
Ah bah bravo, alors c'est bien la peine.
Je ne suis même pas sûre de l'avoir vue.
Alors pendant qu'elle fait ça, et peut-être qu'on peut aussi parler, vous n'avez pas parlé de cette histoire d'impôts réclamés à un autre otage?
Ah non.
Un autre otage de retour de retour d'Iran qui était rentré il y a quelque temps de sa détention. Donc en l'occurrence Benjamin Brière, hein, qui était resté otage en Iran pendant 3 ans et à qui, une fois qu'il est rentré là, on lui a demandé de régulariser sa situation auprès des services fiscaux. Il a reçu un retard de déclaration. Et quand il a dit « Non, mais je ne pouvais pas faire ma déclaration parce que j'étais en otage, j'étais prisonnier en Iran. Ah ben, votre famille aurait pu le faire à votre place. »
Oh, oui, voilà. On sent bien toute la sympathie des services fiscaux.
Voilà, toute l'humanité du traitement de l'administration française. Donc, évidemment... la jante, puisque il s'est avéré que c'était quelqu'un qui a été identifié derrière cette réclamation, a été sévèrement recadré par cette direction qui s'est excusée évidemment auprès de l'otage en question. Voilà. Mais Benjamin Brière n'a pas trop apprécié cette affaire, évidemment.
On peut le comprendre. Et Madame Henriette.
S'il faut, quand elle a reçu le message, la jante est allée voir ses collègues en disant « Non mais on m'aura tout fait, hein, le mec, pour... » Pas de faire sa déclaration d'impôt, il me dit qu'il a été otage.
Voilà, peut-être.
Ils ont toutes les combines. Hein.
Est-ce que vous avez retrouvé la photo, Madame Henriette?
Et non. Parce que ça rame.
Voilà. Oui, ça rame, bien sûr. Il a bon dos, le ramage, tiens.
Je vous ai laissé le temps nécessaire avec
mais
mon
oui,
anecdote.
Mais bon.
Alors, c'est bien embêtant parce que je vous ai inscrit à la prochaine compétition, Madame Henriette.
Mince!
Alors, c'est un truc 100% coréen, même si ça s'est diffusé au Japon. Ça s'appelle la Space Out Competition.
Alors, Space Out, c'est ça?
Space Out Competition.
Alors, non, ne le répétez pas comme ça, monsieur Edmond. C'est vous. On vous tend une perche pour vous en sortir et vous continuez à vous débattre dans la mélasse. C'est
alors, ça. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de rester pendant 90 minutes sans faire absolument rien.
Facile.
Ah ouais, c'est très disputé. Et donc là, celle-là était très, très disputée. C'était à Séoul. Et donc, à la fin, on regarde vos battements cardiaques et puis il y a un vote du public. Et voilà, et après, vous êtes désigné. Évidemment, ça a été créé parce qu'on trouve que la société demande trop de productivité de compétition en Corée du Sud. Donc, pendant une heure et demie, vous montrez que vous arrivez à rien faire.
Et c'est une espèce... de rébellion ultime, en fait.
Voilà, donc là, ils sont tous dans un parc, vous les voyez avec leurs dossards, assis, et ils ne font rien pendant une heure et demie. Et il y a du public qui regarde.
Et c'est surtout qu'ils ne consultent pas leur téléphone.
Ah non, mais ils font rien pendant une heure et demie, c'est comme ça.
Autant dire que cette compétition serait extrêmement difficile si elle était transposée dans les collèges et lycées de ce pays. De notre pays, je veux dire.
Et alors, qui est arrivé deuxième cette année? Eh bien, vous le connaissez, Madame Henriette, puisqu'il s'agit d'un acteur de K-drama qui participait, puisqu'il en profitait pour faire la promo de sa prochaine série. C'est Choi Won-young, que vous avez vu plein de fois. Il a toujours des rôles de méchant. Voilà. Vous regarderez, vous le connaissez. Il a fait plein de séries télé que vous avez vues. Voilà. Et donc, il a fini deuxième.
D'accord.
Eh oui. Allez, on enchaîne tout de suite avec... Est-ce que vous savez de quel archétype morphologique vous êtes, Monsieur Kogan?
Oh là là là.
Vous êtes A, V, H, O, X ou 8? Alors moi, je dois avouer que le 8, ça fait un peu
non,
peur.
Ah non, il fait pas... Ça y est, je suis allé voir Choi Won-young.
Il fait souvent des rôles de méchants quand même. Et des pères, des fois. Ouais,
voilà,
des pères.
Il fait des fois des rôles de mec perdu aussi.
Mais il est très connu.
Oui. Et bon, ça, effectivement, c'est un grand acteur. Pas parce qu'il est un super acteur, hein, mais parce qu'il est très grand. Voilà.
Bon, ouais. Ouais, écoutez.
Bon, donc, alors je ne sais pas de quoi je suis.
Alors, par exemple, si vous êtes de type A, ça veut dire que vous avez le bassin plus large que les épaules. Évidemment,
ah,
ça
parce
fait
que
une
vous
espèce
êtes,
de A, voyez.
Vous êtes, oui, vous êtes en forme de A. Alors, vous pouvez être en forme. On appelle ça aussi le type poire, puisque le haut de la poire est plus étroit que la base.
Et alors, la morphologie en haut, c'est, on appelle ça le type pomme aussi.
Alors non, une pomme c'est rond en fait.
Et ben là, le haut ça fait un rond. Alors c'est notamment pour les
femmes.
Ah,
la morphologie en haut.
Ouais, ça veut dire que les épaules, les hanches sont de même largeur, oui. Que la taille n'est pas marquée et que les épaules sont arrondies. Voilà.
Et vous pouvez avoir aussi une morphologie en X.
En X, oui, oui. Alors je vous ai donné les A, V, H. Alors en H, je ne sais pas ce que ça donne. O, X et 8. Alors 8, alors là ça fait peur. Mais bon.
Alors, mais il faut être vachement souple quand même pour arriver à faire toutes ces lettres.
Ouais. Alors, qui c'est qui a utilisé ça de façon fort élégante? C'est évidemment nos amis de la SNCF pour éditer un guide de l'élégance. Donc, ils vous disaient d'abord, regardez votre morphologie, messieurs de la SNCF, c'était à destination de leurs salariés. 40 pages de conseils beauté, hein, par exemple... suivant que vous êtes, voyez, il faut pas porter certains habits, certaines rayures dans certains
ça
sens et tout ça.
Ça s'adressait aux hommes.
Aux hommes et aux femmes.
Parce que c'est cette espèce de alors c'est une espèce de comme tous les critères de beauté, c'est une espèce de terrorisme débile. Ça s'applique aux femmes depuis des décennies. Hein.
Oui, mais alors là, ça s'appliquait aussi aux hommes, notamment pour ceux qui sont un peu qui ont de l'embonpoint. On leur expliquait comment faire disparaître leur ventre.
Ah oui,
c'est pas
super,
sérieux,
alors,
voyez.
Alors, en plus de l'injonction sexiste, on est dans la grossophobie. Ouais
formidable. Ouais. Alors pour faire disparaître son ventre, c'est en fait, il faut arrêter de manger, mais c'est pas bon pour la santé.
Alors, exemple de conseil qu'il y avait dans ce petit calepin distribué aux salariés. Il faut opter pour une mise en beauté subtile plutôt qu'un maquillage de soirée. Éviter les fards noirs intenses. Qui durcissent le regard, Madame Henriette.
Ah bah dites donc, quand vous voulez impressionner le contrevenant.
Misez sur les décolletés en V qui affinent et mettent en valeur la poitrine.
Ah oui, quand même.
Ah oui, ça allait très loin.
Mais ils ont récupéré ça. Ils ont été choper ça sur ChatGPT et qui lui-même a été pioché ça dans un truc des années 30.
Alors, je ne sais pas. En tout cas, évidemment, le syndicat Sudrail a tout de suite dénoncé le guide.
Sans blague.
Rappelant...
Et oui, alors ce qui m'avait étonné parce que j'en avais entendu parler, c'est que ça supposait qu'il fallait se maquiller aussi pour les femmes.
Alors justement, Sudrail a rappelé que le contrat de travail exige des agents le seul port de la tenue réglementaire et rien d'autre. Nos corps ne sont pas des outils de marketing. La CFDT s'est également fendue d'un courrier à la direction. Alors quand vous vous mettez la CFDT à dos, vous avez compris, c'est que vraiment vous êtes tombé à côté. Jugeant
c'est
le guide,
pas moi qui l'ai dit, hein, c'est pas moi qui l'ai dit.
Jugeant le guide parfaitement inapproprié, infantilisant et discriminatoire, le contenu de ce guide véhicule des stéréotypes et des normes esthétiques totalement déplacées et s'est insurgé la CGT cheminot. Donc là, j'ai envie de dire Sudrail, CGT cheminot, CFDT, vous avez le combo gagnant. Et donc qu'a fait le PDG, le directeur Krakowicz, eh bien, il a retiré immédiatement le guide. Et il a dit qu'il allait faire une enquête interne pour que ça ne se reproduise plus, mais pas pour chercher les coupables. Voilà, c'est magnifique, on les applaudit, bravo. Ne regardez pas comme ça, Madame Marie.
Ah là là.
Je n'y suis pour rien. Allez, on finit par une petite... la pub pour un livre, allez. Shukana, Kunaniya, Lamacha, Atitum. Ce sont des épouses, des veuves, des éleveuses de bœufs, des comptables, des dévotes. Qui vivait en Mésopotamie il y a 4000 ans.
Okay.
Et Cécile Michel, historienne et archéologue spécialiste de la Mésopotamie, vient de sortir un livre où elle a réuni la plus ancienne correspondance privée de l'humanité. Puisque ces femmes, il leur arrivait de correspondre avec leur mari qui souvent était commerçant et qui donc partait loin d'elles, et donc elles avaient des fois des choses à leur demander, évidemment, pour maintenir le foyer en bon état de marche.
Et donc, correspondance sur tablette d'argile ?
Absolument, c'était écrit sur des tablettes d'argile qui elle-même était placée dans des enveloppes en argile, mais plus sèches.
Alors c'était là, scellé... imaginez le bordel pour plier l'enveloppe en argile.
Ah bah écoutez, il savait faire.
Non mais voyez le truc quoi.
Tout ça scellé à l'aide d'un petit seau.
Imaginez l'état de votre langue une fois que vous avez léché la bande autocollante.
Là, sud PTT, c'était la grève tous les jours.
C'est emballé dans du cuir ou du textile, c'est transporté à dos d'âne. Et alors évidemment, comme leurs commerçants de Marie partaient des fois très loin, eh ben, la caravane pouvait mettre parfois 6 semaines pour parcourir les 1000 kilomètres. Voilà. Donc 6 semaines pour délivrer le courrier.
Oui, il ne fallait pas que ça soit urgent. Hein.
Eh bien, Madame Mariette, figurez-vous qu'en cas d'urgence, il était possible de louer un messager particulier avec une mule. Et là, ça mettait que 3 semaines.
Ah ouais,
hein?
Ah bah ouais.
Ah ben oui.
Ah ben là, tout de suite.
Oui.
Évidemment.
Alors, je vous donne juste un exemple par Taram Kubi qui écrit à son mari Inaya. En partant, tu ne m'as pas laissé d'argent, pas même un seul sicle. Après ton départ, il y a eu une famine terrible à Assour et tu ne m'as même pas laissé de l'orge. Et de quelle extravagance ne cesses-tu de m'accuser dans tes lettres? Nous n'avons plus rien à manger, c'est légitime que nous nous plaignions.
Ah oui, d'accord.
Voilà, voilà.
C'était pas où est-ce que tu as mis les clés du garage?
Non. Alors évidemment, tout ça est écrit en écriture cunéiforme. Un petit mot sur l'écriture cunéiforme. Alors l'écriture cunéiforme, c'est donc son nom, ça veut dire que c'est les symboles avaient des formes un peu en coin, vous voyez. C'est pas rond, quoi.
C'est anguleux.
Voilà. Donc ça a été inventé par les Sumériens dans la seconde moitié du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est une écriture qui a bien marché puisqu'elle a permis de noter une douzaine de langues différentes, dont le hittite, le vieux perse, on y revient, vous voyez, l'acadien, tout ça. Alors au début, c'était logographique, puis c'est devenu syllabique. Bon, en tout cas, on a mis beaucoup de temps à la déchiffrer. Et on va dire deux mots sur la façon dont ça a été déchiffré. Ça a été fait au 19e siècle, puisque les gens avaient eu de la chance d'avoir trois textes qui disaient la même chose, mais dans trois langues différentes. Bon, pas de peau, les trois textes étaient en cunéiforme, donc il fallait quand même se gratter un peu la tête. Alors, il y a eu deux Britanniques, Henry Rawlinson, militaire et diplomate.
Ah, j'ai cru que... Mais non.
Ah oui, c'était un chanteur, non?
Non, Henry Rawlins.
Ah, Henry William Fox Talbot, mathématicien, physicien, philologue, plutôt connu. Jules Oppert, savant juif allemand qui s'était expatrié en France. Et Edward Hinks, un pasteur d'une petite ville d'Irlande. Donc, ils travaillaient tous sur cette langue cunéiforme. Ils ont mis des années. Et puis, un jour, ils ont dit qu'ils étaient au point. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on leur a envoyé chacun la copie d'un texte en cunéiforme, sans qu'ils aient le droit de communiquer entre eux. Et ils avaient 2 mois pour remettre leur traduction en anglais. Et on allait comparer, voir si, effectivement, ils avaient trouvé...
Et au bout de 2 mois, on pose le stylo, on relève les copies.
Exactement. Et donc, eh ben, quand leurs versions sont arrivées, on les a confrontées, elles concordaient. Et donc, eh bien, l'acadien cunéiforme fut officiellement déchiffré le 25 mai 1857.
Alors, peut-être qu'on peut rajouter un élément à tout ça.
Allez-y, Monsieur Kogan.
C'est que parmi les premiers textes qu'on a, et c'est un débat, mais parce que pendant des années, ça a été occulté, c'était très difficile... pour les archéologues et les philologues de la fin du 19e et du début du 20e d'admettre ça, mais il semblerait que la première personne à avoir gravé des tablettes cunéiformes soit une femme.
En tout cas, les premières qu'on a retrouvées.
Et oui, et donc c'est un vrai débat, et en tout cas les premiers textes, on va dire philosophiques, métaphysiques de l'humanité, ça pour l'instant c'est on peut dire que c'est voilà, factuellement le cas, c'est Enedhuana, donc une princesse et donc une prêtresse acadienne. Voilà. Et rien à voir avec tous les Acadiens et toutes les Acadiennes.
Non, c'est écrit avec deux cas, avec deux cas, oui, absolument, M. Kogan.
Voilà, rien à voir. Et donc, voilà, au-delà de la plaisanterie, donc le royaume d'Akkad, donc dans la Sumer antique, voilà, on est en train de parler de... Allez, accessoirement, du 23e siècle avant Jacques Chirac. Voilà.
en tout cas, si ça vous intéresse, bien, ça s'appelle « Quand les femmes écrivaient l'histoire entre la Mésopotamie et l'Anatolie il y a 4000 ans ». C'est par Cécile Michel aux éditions du Seuil. Et je pense que vous pouvez avoir beaucoup d'infos puisqu'il y a quand même 392 pages.
Merci, monsieur, pour ce détail.
Mais non, c'est-à-dire que c'est un peu sérieux comme livre, voilà. Madame Henriette, c'est à vous dans Je m'en du bien.
Eh bien, moi, je vous ramène dans le domaine des sciences naturelles et notamment de la science participative. Vous en avez peut-être entendu parler, mais vous n'en avez peut-être pas entendu parler. Alors, ce serait dommage. Le Muséum d'Histoire Naturelle, Muséum National d'Histoire Naturelle, propose donc aux Français d'imiter leur voisin.
Ah non, non, moi je ne vais pas imiter mon voisin. Ah oui, d'accord, ok.
Imiter nos voisins britanniques et irlandais qui, depuis quelques années, essaient de quantifier les insectes. Alors, ce sont des organismes différents en Irlande et côté britannique qui mènent l'enquête, mais le nom est le même, c'est Bugs Matter. Voilà. En France, on va le traduire par les insectes, ça compte.
Et ça débute proche, hein, quand même. Hein.
Oui. Et ça débute ce mois-ci, et donc on vous propose de télécharger une application avec laquelle vous photographierez votre plaque d'immatriculation de voiture que vous aurez préalablement nettoyée. Et ensuite, à la fin de votre trajet, vous compterez les impacts d'insectes pour bien quantifier.
Sur la plaque d'immatriculation.
Exactement, sur la plaque d'immatriculation. Vous pensez bien que le pare-brise, c'est un peu gros. Donc, c'est une étude qui donc fait appel aux citoyens et qui, en Irlande et au Royaume-Uni, a permis d'analyser 25 000 trajets. Et 25 000 trajets, eh bien, ça permet d'avoir des données qui, notamment, eh bien, révèlent, et on s'en doutait un petit peu, mais ça le confirme, par la pratique qui révèle que donc, le nombre d'insectes est en forte baisse. Donc 19% entre 2021 et 19% de baisse entre 2021 et 2025, donc chez nos voisins. On ne redira pas à quel point les insectes sont importants.
Non, 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 c'est bon. Donc il faut juste faire ça.
Il faut
le faire combien
faire
de fois
ça. Eh bien, vous le faites autant de fois que vous le pouvez.
D'accord. Donc, il faut juste savoir compter, avoir une voiture et écraser des insectes.
Alors, au niveau de la plaque d'immatriculation, il y a peu de chances que vous arriviez à les éviter de toute façon.
Oui, bah, du pare-brise non plus, hein, les insectes, excusez-moi, mais bon.
Il n'y en a quasiment plus, quoi. D'où l'étude.
Voilà. Donc, alors, c'est intéressant parce que les insectes, donc ça permet de compter les insectes, mais j'ai appris en lisant l'article sur le site du Muséum d'Histoire Naturelle qu'il y avait, que je ne vous dise pas de bêtises, ça m'a effrayée, 1 million d'animaux, donc des gros animaux, qui sont percutés sur les routes chaque année.
Sur les routes mondiales
de France.
1 million ?
Oui.
Ah oui, parce qu'ils comptent les hérissons et tout ça.
Oui, excusez-moi, c'est des animaux.
Oui, vous dites les gros, alors à partir de quand
oui,
on est gros ?
Oui, c'est des gros animaux par rapport à une mouche.
Ah oui ?
Voilà.
Non, parce qu'il faudrait demander à la SNCF à partir de quand on est gros.
Oh, bravo !
Bon, d'accord, 1 million, ça fait beaucoup quand même.
Exactement.
Bon, vous aviez une autre information.
Tout à fait.
Et redites peut-être quand même où il faut faire tout ça, il faut aller
donc
où.
C'est une application qui s'appelle Les Insectes, ça compte. Et
oui, donc il suffit de télécharger
voilà.
Ça et puis après, on sait, tout est expliqué.
A priori, ça fonctionne aussi avec Bugs Matter, si vous voulez le faire.
Le faire en anglais.
Voilà.
Ah, Monsieur Kogan va le faire en anglais.
Ben, s'il veut.
Comment est-ce ton Dario?
Et donc, souhaitez-vous que je vous amène, je ne vous y amène pas souvent, souhaitez-vous que je vous amène aux États-Unis ?
Oula !
Mais ça, on va parler d'animaux. Allez, je vous amène en plus dans un endroit que vous devez particulièrement apprécier, Monsieur Kogan, à savoir le sud-sud de la Floride.
Oula ! Oui, c'est rien de le dire.
C'est un article de Science News, un très long article.
C'est sur les crocos.
Très intéressant. Eh bien, pas du tout.
Oh.
C'est sur une population qu'on ne s'attendrait pas du tout à trouver là, donc vraiment au niveau de la pointe de la Floride.
Donc, ce n'est pas les retraités. Donc.
Dans la mangrove, non plus. Oh non, on ne va pas parler des retraités. Dans la mangrove, donc, il y a une population de singes que l'on appelle les singes vervés. C'est également les singes verts. Voilà. Alors, ce sont des singes qui sont très petits. Hein, ils font entre 4 et 6 kilos. 60 cm sans la queue, c'est pas des gros singes, et ce sont des singes qui sont originaires de l'Afrique subsaharienne. Alors on a longtemps pensé que ceux qui sont présents, la colonie qui est présente au sud de la Floride, était une colonie de l'est de l'Afrique, où il y a donc une famille particulière de ces singes vervés. Et puis,
et comment ils seraient arrivés là alors?
Alors, c'était toute la question. Et donc, l'une des hypothèses était que une espèce de centre d'importation de singes qui a ensuite été destiné à l'expérimentation animale était basé là en Floride. C'était d'ailleurs, si j'ai bien compris, un centre qui était dirigé par une cousine du président Roosevelt. On était dans les années 50.
Oui, ce que j'allais dire, ça date un peu, donc.
Tout à fait. Et donc, on importait des singes, et puis une cinquantaine d'entre eux avaient réussi à s'enfuir. Alors, ces singes-là, par contre, eux, ils venaient d'Afrique de l'Ouest, donc, effectivement, de la zone Sénégal, Ghana, voilà. Et donc une cinquantaine a réussi à s'enfuir. Ils ont été rattrapés, mais il y en a une quinzaine qu'on n'a jamais retrouvée. Donc on avait aussi cette hypothèse. Ce singe n'avait jamais été tellement étudié, la population de singes qu'il y a au sud de la Floride. La plupart des habitants ne savent pas qu'il y a des singes en Floride, et en fait ceux qui les connaissent, ce sont ceux qui les ont au fond du jardin.
Donc ils sont acclimatés quand même. Ils sont
acclimatés puisque ça date des années 50. Donc une universitaire s'est passionnée pour cette population de singes, et elle a fait des analyses génétiques qui ont permis de vérifier l'hypothèse effectivement de ces singes venus de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest. Et donc ce seraient a priori les singes échappés de ce...
De Madame Roosevelt, cousine de Madame Roosevelt.
Oui, c'était une espèce de centre d'allotement. Alors c'était pas bien glorieux, hein. C'était pour faire des recherches sur la tuberculose et puis également les premiers singes qu'on a envoyés dans l'espace également. Voilà.
Est-ce que vous saviez, à propos de singes, je vous donne une anecdote qui n'a rien à voir. Est-ce que vous saviez d'où vient le nom babouin?
Ah non.
Eh bien, c'est lorsque Buffon a écrit son livre d'histoire naturelle, il était en train d'écrire un article sur une sorte de singe qu'il avait découvert, non? Et comme il avait des gros problèmes avec une famille lyonnaise qui devait sans doute de l'argent, ou il y avait un conflit, voilà, et donc il a décidé de donner le nom de cette famille avec qui il avait des problèmes à cette espèce de singe qu'il trouvait particulièrement agressif.
Ah oui, voilà. C'est magnifique.
Donc j'adore cette anecdote.
Donc voilà. C'est un nom français, les babouins.
Voilà, magnifique.
Non.
Alors, maintenant débrouillez-vous, Madame Ariette, pour recoller les morceaux.
Alors, on revient.
Et revenir en Floride.
On revient à nos petits singes verts. Donc.
Mais pourquoi verts?
On appelle ça les singes verts, voilà, c'est tout.
Mais ils sont pas verts.
Bah, non, évidemment qu'ils sont pas verts. C'est pas Shrek.
Ça fait peut-être référence à leur performance intime, je ne sais pas.
Monsieur Kogan,
mais qu'est-ce que ça veut dire? Comme le galant vert?
Voilà.
Bon, je ne sais pas, il faudra leur demander s'ils mangent de l'ail et s'ils parlent gascon.
C'est donc... des singes qui font de la poésie. Bon, allez-y, monsieur.
Donc, là, vraiment, vous cherchez à noyer le poisson. Donc, ces singes, vous disais-je, vivent dans la mangrove. Ils sont redevenus sauvages. Ceci dit, ils n'avaient jamais été vraiment apprivoisés. Et ils se sont acclimatés. Alors, la particularité, et c'est ce sur quoi portait cet article de Science News, c'est qu'en fait, c'est une espèce non native, mais qui n'est pas une espèce invasive. Puisqu'en fait, il y a une forte mortalité parmi ces singes qui sont alors... souvent heurtés par les voitures.
Ah ben, on y revient.
Souvent électrocutés également, ce qui les blesse de façon assez vilaine quand ils grimpent sur les poteaux électriques. Et puis, il y a aussi tout un tas de ces singes qui disparaissent. Et on pense que c'est pour le commerce illégal d'animaux sauvages. Alors, la population ne progresse pas. Et même, très probablement, cette population va finir par s'éteindre. Et là, se pose aux chercheurs et à la population en général une question absolument impossible à résoudre. Faut-il protéger une espèce non native ?
Ne me regardez pas comme ça, voilà. Madame Maria, Floride, moi.
Et c'est une vraie question,
fous.
Parce qu'en fait, cette espèce n'a rien à faire là.
Oui, mais
elle est arrivée
pas
par hasard.
Ça, hein.
Elle cause a priori peu de dégâts, mais elle en cause évidemment un petit peu, puisque ce n'est pas son écosystème. Et par contre, elle bénéficie d'un énorme soutien de la population. D'ailleurs, les premiers universitaires qui ont voulu faire des recherches ont été vus d'un très mauvais œil par les gens qui avaient ces singes dans leur jardin et qui avaient peur que l'on fasse du mal à ces animaux. Et qui leur ont même, par moments, tendu des pièges pour qu'ils ne puissent pas faire leurs études. Enfin, voilà. Donc, il y a une
forte... Les singes faisaient des études ? Ah non, allez-y, concluez, madame Mariette.
Donc, il y a une forte affection de ceux, des rares habitants qui les connaissent, pour ces singes. Alors... Un des candidats aux élections de mi-terme là, en novembre, donc, qui est candidat pour être gouverneur de la Floride, propose de protéger ces petits singes et voire d'en faire un emblème de cette région. Évidemment, ça va à l'encontre des préconisations des scientifiques. Hein. C'est une espèce non native, c'est une espèce possiblement invasive. Bon, il n'est peut-être pas de très bon aloi de la protéger. En tout cas, ça ne va pas, ça n'est pas dans l'orthodoxie de la biologie. Voilà. En tout cas, de la protection de l'environnement. Donc voilà, un vrai débat en Floride pour savoir que fait-on ? Est-ce qu'on protège ou pas ces petits singes que tout le monde trouve très sympathiques et qui sont nourris d'ailleurs par les habitants ils font vraiment partie de la vie de ceux qui les connaissent, ou bien laisse-t-on faire la nature, à savoir qu'ils n'ont pas forcément leur place dans cet écosystème-là.
Est-ce qu'on sait le rôle qu'ils jouent dans la planète des singes ? Parce que c'est ça qu'il faut regarder. Non, bon, bah, tant pis. Alors,
vous irez le leur demander, puisqu'il y a donc l'une des universitaires qui les a le plus étudiés a créé un sanctuaire où elle récupère les jeunes singes abandonnés et puis ceux également qui ont été blessés et qui donc il faut amputer souvent. Donc elle les récupère.
On va s'arrêter là, madame Marie.
Elle les
Merci.
Récupère dans son sanctuaire. Vous irez leur demander s'ils souhaitent être dans la planète des singes.
Allez, on passe à monsieur Kogan pour un peu de culture après tout ça.
Ouh là là, je suis perdu dans mes notes, évidemment, mais ça ne vous surprendra pas. Et donc, mes chers compatriotes, en cette mi-avril, où on se demande peut-être ce qu'on va faire aux prochaines vacances, eh bien moi, je pense plutôt au 15 décembre 2027. Et oui, qu'est-ce qui va se passer le 15 décembre 2027 ?
Eh ben, on sera à la moitié du mois de décembre, hein, et puis pas très loin du solstice d'hiver.
Ah oui, alors, aucun rapport, quoique. Eh oui. Car il s'agit ce jour-là de la sortie de The End for Gollum, le film dans l'univers de Tolkien dont on connaît dorénavant le casting. Alors évidemment, il y a Andy Serkis, puisque en plus c'est lui qui réalise donc cet opus, donc il est dans le rôle de Gollum, bien entendu. Ian McKellen, bon, alors Ian McKellen, il faut quand même que le tournage aille vite parce qu'il se fait vieux. Hein, c'est, voilà. Elijah Wood, bon, ça c'est le type, quand on le regarde, on comprend pas trop ce qui s'est passé parce qu'il a la même tête qu'il y a 25 ans, c'est un peu étrange. Et Lee Page, donc, qui reprennent donc respectivement leur rôle de Gandalf, Frodon et Tranduil. Mais parmi les nouveaux venus, alors Leo Woodall, qui est moins connu, hein, Jamie Dornan. Et alors, Jamie Dornan a été victime évidemment d'un certain nombre de blagues désagréables, puisque évidemment. un internaute s'est fendu d'un 50 Shades of Gollum. Voilà. Donc, ça vous donne, si vous ne le saviez pas, l'idée de ça vous donne une référence sur dans quoi a tourné cet acteur.
Alors, oui, et puis l'image mentale est abominable.
Sauf que, absolument. Sauf que Jamie Dornan, c'est beaucoup plus que ça. Et c'était entre autres un acteur. C'est un acteur qui a joué dans d'autres choses. Et dans, entre autres, je pense à un film qui s'appelle. Qui est sur la bataille de The Battle of Janotville, où il joue le chef de ce groupe d'Irlandais qui a été encerclé par des rebelles dirigés par les Français. Enfin bref, une histoire pas très glorieuse au Congo il y a quelques décennies. Et donc, il succède à Viggo Mortensen dans le rôle d'Aragorn. Donc, ce n'est pas une mince information. Et donc, moi, je trouve ça pas si mal. Et puis, Kate Winslet, oui, Kate Winslet, qui va jouer une Hobbit. Donc, le personnage s'appelle Marigold. Donc, j'ai hâte de voir ça. Après tout, ben écoutez, c'est pas pire comme nouvelle que tout ce qu'on nous annonce par ailleurs. Donc, pour vous, j'ai sinon regardé un film de fiction réalisé par un documentariste, et un documentaire qui dépasse la fiction. Voilà. Alors, le premier s'appelle Sauvage, et le deuxième, l'affaire Abdallah. J'en ai déjà parlé. Alors, Sauvage. Pour parler de ce film un peu spécial, il faut bien sûr, comme souvent, évoquer la personne qui l'a réalisé. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un garçon qui s'appelle Camille Poncin, documentariste, et entre autres d'un portrait remarqué de l'ethnologue Marie-Josée Toubiana, spécialiste du Darfour. Ça s'appelait La Combattante, c'était sorti en 2022, et qui avait été primé plusieurs fois. Donc là, son premier film de fiction s'inspire, c'est assez logique, d'une histoire vraie. Et moi, je me souviens quand cette histoire avait été révélée par la presse, parce qu'elle était quand même assez incroyable. C'était celle donc d'une mère. Là, en l'occurrence, le personnage s'appelle Sam, incarné, il faut le dire, magistralement par Céline Salette, actrice formidable qu'on a vue dans HHHH, dans Les Algues Vertes, etc. Entre autres, elle aussi réalisatrice du biopic sur Niki de Saint-Phalle. Et donc, cette mère monte dans la montagne régulièrement pour laisser des provisions à sa fille qui survit seule dans la forêt. Peut-être vous vous souvenez de cette affaire, peut-être pas. Et donc, cette sauvage, jouée par Lou Lampros, devient une sorte de dame blanche qui apparaît et disparaît régulièrement, qui survit à un moment dans une espèce de baraque en pierre sèche, là, qui vole dans les frigos, qui casse des trucs, enfin bref.
Et est-ce que Vianney ne peut pas lui donner un petit coup de main pour lui faire une cabane ?
Ça aurait pu être utile, sauf qu'évidemment, cette personne est totalement perdue psychiquement, voilà. Donc, s'ensuit des années comme ça, avec une tension évidemment qui finit par monter à l'intérieur de la vallée, des problématiques qui se posent. Anja, c'est le personnage de ce film, est presque un fantôme, et pourtant on comprend qu'il faut l'aider, ou peut-être pas, et c'est une des questions du film. Alors, en bonus, dans le rôle du père hippie, dandy, un petit peu trop décontracté face à la situation, Bertrand Belin. C'est quand même assez. Enfin, il est quand même lunaire et génial, Bertrand Belin, dans le film. Alors, c'est un film original avec des images évidemment magnifiques, des forêts Cévenoles. Il manque peut-être un petit quelque chose pour en faire plus que un très bon premier long métrage. Le sujet n'était pas facile et franchement, ce n'est pas si mal, même si l'émotion tarde à venir. Et peut-être que le plus touchant. C'est dans les images finales. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, vous allez forcément être curieux et vous allez aller vous renseigner sur cette affaire qui est quand même incroyable, d'une femme qui survivait toute seule dans la montagne avec sa mère qui venait l'aider. Donc ça, c'est assez dingue. Alors, le réel toujours, le réel encore plus, puisque le documentaire dont je vais vous parler, que j'ai donc déjà évoqué, s'en prend à un des plus graves scandales d'État, voire au-delà, de ces 50 dernières années. L'affaire Abdallah. Alors, Pierre Karl, Bon, il est habitué aux documents, aux documentaires coup de poing. On le savait. Mais là, il s'attaque à une page très problématique de l'histoire de France, et même du Moyen-Orient, et qui résonne très fort, compte tenu de l'actualité, tant en France qu'au Moyen-Orient, ces derniers temps. Donc. Preuve en est, le film commence par une visite de Rima Hassan à la prison de Lannemezan, où était donc embastillé ce militant communiste révolutionnaire libanais, qui au total sera donc resté 41 ans en prison, en dépit de toute loi, de tout respect du droit. Le film fait l'historique de ce qu'on doit bien appeler une machination, hein, il n'y a pas d'autre mot, contre celui qui a été assez vite appelé un terroriste, ce qu'on peut factuellement dire, mais là, ça pose vraiment problème. Parce qu'il a été accusé de l'assassinat de deux diplomates, un Américain et un Israélien. Je mets des grosses guillemets à diplomates parce qu'on se doute, vu le grade qu'ils avaient, qu'en fait, ces gens étaient respectivement un agent de la CIA et un agent du Mossad. Et donc, cet instituteur maronite du nord du Liban, donc chrétien, hein, chef d'un groupe armé, ce qu'il n'a jamais démenti, les FARL, est donc condamné en 1987 à la réclusion à perpétuité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuves dans le dossier. Et le film mène une véritable enquête, quoi. Démontre que le mensonge initial de sa responsabilité va être la source d'une série incroyable de fake news. Et alors que très vite, on sait en haut lieu que c'est l'Iran qui a commandité, non pas l'assassinat des deux personnages en question, qui ont bien été exécutés par l'organisation d'Abdallah, mais c'est les Iraniens qui, en 87, 86-87, sont à l'origine d'attentats terribles en France. On pense tous à l'attentat de la rue de Rennes, par exemple. Or, ces actions terroristes, sanglantes, vont peser sur la condamnation bien pratique, donc d'Abdallah, parce qu'il fallait trouver un bouc émissaire, tout simplement. Et les journalistes, d'ailleurs certains s'excusent dans le film, c'est assez notable, hein. Et notons que Plenel, lui, ne s'exprime pas, et je pense qu'il aurait dû, hein. Et les politiques ont donc servi cette machination. Mais malgré 41 ans de prison, de pression israélienne et états-unienne, on voit quand même des extraits de mails de hauts responsables américains dans le film. Eh bien, Georges est resté debout, symbole, malgré 41 ans de prison, de pression, donc, de pression de ces deux pays, et symbole de la résistance à toutes les formes d'oppression, souriant, confiant, et au-delà de la leçon d'humanité que donne le film, c'est le portrait d'une âme forte, hein, que signe Pierre Karl. Libéré l'an dernier, et le personnage ne renonce à rien à son combat. Alors, il y avait déjà eu un film plus austère en 2020, peut-être encore plus militant, parce que là, il y a quand même des sacrés moments dans ce film, et entre autres, des interviews un petit peu contraintes de Hollande et Fabius. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas super convaincants dans leurs réponses. Alors que, disons-le, les journalistes et les politiques donc, des années 80 qui sont dans le film, et pourtant certains politiques bien détestables, hein, je pense à Alain Marceau par exemple, assument leur erreur. Donc c'est un film à voir absolument pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et peut-être avancer sur cette question. Voilà. Alors est-ce que j'ai encore un petit peu de temps, chers amis ?
Un tout petit peu, Monsieur Kogan.
Ah, oulala, faut que je me dépêche. Alors, Moya Brennan est parti. Alors, pour les passionnés de musique celtique, c'est un drame. Pour les Irlandais, dans leur grande majorité, c'est un drame national. Donc, The First Lady of the Celtic Music, la chanteuse, leader du groupe Clannad. Alors, Clannic, on devrait dire, puisque c'était le groupe de toute sa famille. Les frères, les oncles et sa sœur, Enya, qui elle aussi a fait une grosse carrière individuelle. Hein.
Oui, en effet.
Et donc, c'était la petite sœur, c'est la petite sœur, Enya, de Moya Brennan. Elle jouait de la harpe et donc elle apparaît sur plus de 30 albums, hein, cette chanteuse. Et donc, son interprétation du thème de Harry's Game fera d'elle une star internationale. Elle chantera aussi avec Bono, avec Hanouna, avec tant d'autres. Sa disparition à 73 ans est accompagnée par des hommages de toute une génération de musiciens, bien au-delà de l'Irlande, et de toutes les figures évidemment de la musique celtique, en Irlande, en Écosse, en Bretagne et aux États-Unis aussi. C'est une star à une nouvelle étoile qui brille depuis sa mort dans ce ciel irlandais que j'aime tant. Alors, j'avais prévu de vous donner quelques dates, mais peut-être que je n'aurai pas le temps. Avant ça, je voulais quand même rendre un petit hommage à d'autres personnes disparues. John Nolan, hein, qui était un acteur, et c'était l'oncle de Christopher et Jonathan Nolan. Donc, on l'a vu dans les productions de ses deux neveux, entre autres dans des Batman ou dans Person of Interest. Delphine Nulls était une réalisatrice et scénariste belge, entre autres d'un film qui s'appelle Postpartum, qui était très intéressant. Harry Kim était un trompettiste de jazz. Et Asha Bhosle, on en parlait en antenne tout à l'heure, est une chanteuse indienne absolument monumentale. Hein. Elle disparaît à 92 ans en ayant enregistré plus de 12 000 chansons. Voilà. Et sinon, Ian Watson, qui était un grand écrivain, enfin moi j'aime dire grand, mais un écrivain de SF anglais, connu entre autres pour avoir écrit des scénarios de Warhammer Battle, enfin bref, Warhammer 40 000. Voilà, c'est pour les spécialistes. Yves Tenray était un écrivain belge, et Colette Coury, une poétesse syrienne. Alors du coup, peut-être que je n'ai pas le temps de vous donner de date.
Si, si, vous avez 3 minutes, monsieur Kogan.
Oh là là. Alors, écoutez, je commence avec ce que j'ai sous les yeux. Il y a un concert au calme qui s'appelle Hades the Planet. Donc, c'est à 20h jeudi 23. Et jeudi 23, c'est aussi à nos forêts. Donc, c'est un spectacle qui se passe au CCMCM Jean Gagnant. On y reconnaîtra d'ailleurs un chanteur d'un des groupes phares des années 90 dans cette équipe. Et la même équipe se produira le samedi à 20h à la Mégisserie. Un film toujours à Saint-Julien, Un lugar más grande, c'est un film sur le Mexique et le mouvement zapatiste, c'est à 20h au Ciné-Bourse, bien entendu. Samedi 25 avril, un concert de John A.L. Society, donc c'est Lise et Anthony, hein, j'en ai déjà parlé ici, à 15h à la BFM à Limoges. Et ce samedi 25, le Nicolas Bouchard dédicacera toute la matinée à Page et Plume, La République de Freya, son nouveau roman. Je voulais quand même vous parler d'autre chose. Alors, très rapidement, ce samedi, il y a Rock Voltage 87 avec Star Rider, Blind Wisdom. C'est au tiers-lieu, bâtiment 25, donc avec aussi Attic Sharks. C'est à 19h. Un concert pop-rock. Alors là, c'est en Corrèze. Du coup, je vais vous dire une bêtise, c'est à la Brasserie du Cos, j'ai déjà parlé de cet endroit, donc en Basse-Corrèze. Ryan Acoustic seront au Limogé samedi à 20h30 dans le cadre du Rock Tattoo, qui est un événement évidemment lié au tatouage et au rock'n'roll. Donc là, nous aurons deux concerts avec du rockabilly, bien sûr. Donc, c'est The Felits and Tyler and His Scratching Hands. C'est à Cérillac, au Rock Spirit Garage. J'ai déjà parlé, évidemment, de cet endroit. Parmi les autres événements, Murrayhead sera à l'espace André le Jeune. Et oui, en Creuse, hein, donc à Guéret, ce dimanche à 18h30. Voilà, c'est quand même l'épisode nostalgie. Et puis, pour tout à fait autre chose, vous avez une conférence, je voulais en parler un petit peu, Hans Berggruen, un marchand et sa collection, sa passion pour Paul Klee. Voilà, ça n'a rien à voir, c'est mercredi 22 avril à 19h à l'espace Simone Veil à Tulle. Eh bien écoutez, il y aura une soirée avec Bobby Dierninger, le guitariste que nous aimons bien dans cette émission. Voilà, donc le guitariste de blues, bien sûr, il sera au Limoges mercredi 22 avril à 19h30. Un peu de théâtre ou peut-être autre chose. Ah oui, on peut citer deux voyages, Sandra et Pessoa. Donc là, ce sera, ce sera évidemment un voyage autour de la poésie. C'est mercredi 22 et c'est à l'espace Noriac. donc c'est à 20h, avec évidemment notre ami Yann Caracchio. Et puis, je peux terminer par quelque chose d'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y aura un concert Souris Panique, histoire à l'IF, l'Irrésistible Fraternité. Les Limougeauds connaissent cet endroit. C'est à 19h, jeudi 23. Et je rappelle que l'IF, c'est 8 rue Charles-Gide à Limoges. Voilà, écoutez, je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon, ça ferait trop. Ou alors.
Mais une dernière, M. Kogan, allez-y. Ou deux dernières.
Si vous voulez me voir aussi, vous me verrez. Alors, peut-être pas au concert Hourra à Death the Planet. Là, c'est un mélange rock-rap. Donc, c'est à 20h au calme, jeudi 23. Mais par contre, vous me verrez en même temps, donc à 20h30, à la causerie Forestier Sylvestre et ou Sauvage de Michel Chadeuil. C'est à 20h30 à la librairie Occitane, bien sûr. Et vendredi, à ne pas rater, Yves Jamais sera à Jean Gagnant, mais si vous préférez du gros son, le Rock Metal Camp Fest fait un petit warm-up au Dropkick à 19h, vendredi 24. Et voilà.
C'est bien sympatoche.
Bah ouais, c'est vrai ça, c'est un festival très sympathique. Voilà, ça fait une éternité qu'on n'y sommes pas allés, Madame Henriette.
J'ai raté plein de trucs. Hein.
Ouais, c'est comme ça.
Et oui, vous n'avez pas parlé du gros festival Urban Culture qui va débuter le 22 avril à Guéret.
C'est vrai, il y a. Mais non, mais j'ai oublié.
On a encore un peu de temps, Ce sera du 22 avril au 3 mai.
Voilà.
Il y a un truc qui s'appelle les crêtes brûlées. C'est vendredi 24 au bistrot Saint-Jean à 21h à Saint-Jean-Ligour. Et je pense que ça vaut le détour. Tout comme le festival alternatif au Chastan. En Corrèze, le 25 avril à 18h. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas tout dire.
Oui, pour une région où il ne se passe jamais rien et où on s'ennuie. Hein.
Eh bien, écoutez, merci, M. Kogan, pour toutes ces infos. Vous avez dit plein de noms. Les gens, maintenant, ils ont ChatGPT et tout pour trouver la suite.
Hein. C'est ça.
Même si on sait que les IA racontent à peu près 70% de conneries. Bon, mais ce n'est pas grave.
Alors, il y a les moteurs de recherche qui fonctionnent tout aussi bien. Et
oui, mais
qui
ça
sont
consomme
quand même
moins. Moi, j'aime bien booster mon empreinte carbone. Quand
c'est quand même moins énergivore.
Oh là là, Madame Henriette. On se dit au revoir.
Eh bien, on se dit au revoir et bien à la semaine prochaine.
Bye bye.
J'ai passé des nuits sans lune à chercher la taverne dans mon cœur. Tout comme autant des fleurs où l'on vivait sans peur, où chaque jour. Ne la connais.